Infiltrée, une femme au stup. Sans filet. 2019. Un port africain, écrasé par le soleil, grouillant de monde, avec son balai incessant de trafiquants de tout acabit et de douaniers corrompus. N'importe quelle marchandise est négociable dès son déchargement. Et on peut voir des voitures volées un peu partout en Europe se déverser sur les quais à une cadence vertigineuse. Sur le Mall 4, une des zones du port, d'énormes camions-citernes viennent s'approvisionner en huile du matin au soir dans des tankers reliés par des pipelines aux bateaux. Ils doivent ensuite l'acheminer dans les réservoirs d'une usine. Nous sommes là, Jean-Paul et moi, sur une petite moto que nous avons louée. Nous planquons. Nous tentons de rester à peu près inaperçus, ce qui est difficile quand on est blanc. Heureusement qu'il y a beaucoup de monde dans la journée. Au cas où un officiel s'intéresserait à nous, nous pourrions toujours dire que nous nous sommes trompés de môle. Nous planquons, observons, photographions avant de filocher. Eh oui, notre métier est comme imprimé dans notre esprit, marqué dans notre chair, presque dans nos gènes. Moi, je suis un pur produit de la PJPP. Et aujourd'hui encore, je fonctionne exactement comme je le faisais au stup. Je pense que c'est pareil pour Jean-Paul. À nous deux, on fait la paire. On vit et on travaille en parfaite osmose. Alors nous suons sous nos casques, ensemble, patiemment, pour découvrir le détail qui va nous permettre de faire aboutir notre nouvelle enquête. Tout a commencé par l'appel d'un industriel africain. On lui vole en grande quantité l'huile dont il fait commerce. Cela dure depuis longtemps, depuis 10 ans exactement. À chaque arrivée de bateau, il y a une différence de 200 tonnes entre la quantité d'huile qu'il est censé transporter et celle qui est reversée, une fois déchargée, dans les réservoirs de son huilerie. Le préjudice est évalué à 1 million de dollars par an. Cet industriel a déjà fait faire plusieurs enquêtes internes et déposé plusieurs plaintes auprès des autorités. En vain. Il pense que les vols ont plutôt lieu sur le port qu'à l'usine. Mais il lui a été impossible de déceler quoi que ce soit d'anormal. Un vrai mystère. Il nous demande de venir enquêter de toute urgence et avec la plus grande discrétion. Nous le retrouvons dès notre arrivée pour qu'il nous briefe plus précisément dans un petit restaurant local, éclairé par des lampes à huile, au sol joliment jonché de coquillages. Le soir, de retour à l'hôtel, nous réfléchissons. Il faut mettre en place une stratégie d'infiltration pour comprendre. Nous n'en serons pas les acteurs, évidemment. Nous sommes trop repérables. Comme nous connaissons bien le pays, nous décidons de faire appel à des gens qui avaient déjà travaillé pour nous et qui sont formés à la sécurité. Nous en choisissons 5 en qui nous avons particulièrement confiance. Nous les recevons un par un dans un bouge perdu et discret et nous leur expliquons qu'ils vont se faire recruter dans une société avec pour mission d'observer et d'écouter. Qu'ils doivent accomplir leur travail normalement, sans jamais dire, évidemment, pourquoi et par qui ils ont été embauchés. Après les avoir bien préparés, nous donnons leur nom à notre client qui se charge de les faire engager à divers postes de l'entreprise que nous avons ciblés. Il est entendu que nous ferons un débriefing tous les soirs avec nos infiltrés. Pendant plusieurs jours, il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout. Pendant que nos hommes s'intègrent et tentent d'observer de l'intérieur, Jean-Paul et moi nous planquons sur le port avec 2 autres Africains. Nous décidons d'attendre un nouveau bateau et nous demandons que les jauges se fassent sur le bateau même. Rien. Mais nous sommes maintenant certains que ce n'est pas au cul du bateau que l'huile est volée. Et pourtant, le chef des stocks annonce ensuite que 200 tonnes se sont encore évaporées. Puisqu'il ne se passe rien de jour, c'est que le détournement se produit forcément pendant la nuit. Notre client nous avait dit que tout se passait en journée. C'est pourquoi nous n'avions pas prévu de surveillance de nuit. d'autant plus que le port, vidé de son agitation, nous rendait trop visibles et devenait une zone vraiment dangereuse. Entre-temps, nos infiltrés se sont habilement fondus dans l'entreprise et ont gagné jour après jour la confiance de leur chef de service, à tel point que deux d'entre eux se sont déjà vus proposer de participer au détournement de l'huile. Très tôt, un matin, nous recevons un SMS d'un de nos gars. Il faut qu'on se parle tout de suite. Il est surexcité de sa découverte. Quand j'arrive dans la cour de la société, je passe devant le parking des camions, les 30 tonnes. Eh bien, le matin, ils ne sont pas garés de la même façon que la veille. Je suis sûre qu'ils ont bougé pendant la nuit. Il a bien mérité le surnom d'Eureka. Nous aussi, cela fait tilt dans nos têtes. On baratine les mecs de la sécurité du port pour qu'ils nous laissent entrer dans la nuit sur le môle et nous planquons. Maintenant, il n'y a plus de carte de police pour nous. Plus de code radio, collègues en difficulté. Plus de groupe, plus de moumoune, ni la ruine, ni Doumé, ni Jean-Mi, ni personne d'autre que nous-mêmes. Nous devons nous servir de nos propres ressources, sans pouvoir compter sur la police du pays, qui pourrait même vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Cette nuit-là, nous nous apercevons qu'il y a un va-et-vient incessant de camions sur le Mall 4. Et soudain, nous comprenons. Nous planquons plusieurs nuits de suite, en prenant des photos, pour être bien sûr de notre coup. À la jumelle de nuit, nous voyons les organisateurs du détournement, des cadres importants de l'usine, arrivés avec des chauffeurs au volant de gros camions-citernes. Ils ont de toute évidence acheté la complicité de la société de gardiennage qui sécurise les tankers, tout comme celle des services de police qui filtrent les entrées et sorties du port. Nous les regardons remplir les citernes des camions directement aux tankers. Puis les camions repartent dans la nuit. Nous sautons dans un taxi pour en filocher un. Le chauffeur ne nous remarque pas. Il continue sa route vers une ville de province et livre l'huile à un grossiste complice. Le lendemain, nous demandons à notre client de faire vérifier le contenu des tankers cette fois-ci et non du bateau. Ils contiennent chacun 4000 tonnes et non 3800, comme le prétendait le chef des stocks. C'était ça la ruse. Les voleurs annonçaient le vol avant qu'il n'ait lieu. Le chef de service corrompu faisait semblant de se lamenter. « Oh, ce bateau ne contient que 3800 tonnes, et non 4000 comme il le devrait. » Ainsi, les soupçons se portaient forcément sur les types du bateau. Et la nuit, les camions-citernes conduits par des complices venaient siphonner les 200 tonnes annoncées comme étant déjà volées, non pas dans le bateau, mais dans le tanker, à terre. Nous observons ce petit manège pendant plusieurs nuits. Nous découvrons par la même occasion que de l'huile était de nouveau détournée dans les centres de distribution officiels de la société en province, exactement selon le même système. Nous faisons un compte-rendu de tout ce trafic très malin à notre client, qui est ravi, et nous annonce qu'il va faire un sacré ménage dans son usine. Nous fêtons cette réussite avec nos gars dans le restaurant aux coquillages. Ils ont reçu une bonne prime, et nous savons que nous pourrons compter sur eux pour une éventuelle prochaine fois. Chacun s'amuse à raconter son aventure. Nous sommes contents, mais harassés, transpirants, avec une seule envie, prendre une semaine de vacances, n'importe où, au bord d'une mer chaude. Nous sommes en novembre. J'y rêve agréablement à l'aéroport avant d'embarquer pour la France. J'ai déjà tout mis en scène dans ma tête. Playa, playa et playa. Je me tourne vers Jean-Paul. Il est au téléphone. C'est un industriel tchèque, me dit-il en fermant son portable. Il veut nous rencontrer tout de suite, mais ça se passe en Roumanie. Et il m'entraîne au pas de charge vers l'avion. Finalement, passer du public au privé, c'est encore une façon de travailler sans filet. J'aurai juste le temps de mettre ma chapka.